Et Marion, à présent, tu reçois Antoine Rouget, journaliste au pôle enquête à Mediapart. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Antoine. Alors, tu es à Rennes en ce moment même pour présenter ce soir au ciné TNB à 20h Media Crash, qui a tué le débat public. C'est un documentaire réalisé par les journalistes Valentine Auberti et Luc Herman et coproduit par Mediapart et Première Ligne. On écoute un extrait de la bande-annonce tout de suite.
Maintenant, on va vous montrer un document.
Enfin, c'est insupportable! Mais je veux pas que vous répondiez!
C'est plus une émission de débat!
Alors, si vous n'êtes pas content, vous partez!
Journaliste du service public, observateur de gauche, élu de gauche, ne vous réjouissez pas.
Enquêter sur Bolloré en Afrique, c'est se confronter à un mur de silence et à des gens qui ont peur.
Le vrai patron, c'est Bolloré.
Tout cela dans un écosystème dont on voit bien qu'il est au service d'une idéologie politique clairement assumée.
En l'espace de, allez, on va dire, 5 mois, Europe 1, qui était une radio vraiment indépendante, est devenue une radio dont le contrôle est celui de Bolloré.
Alors, peut-on encore avoir une information libre et indépendante quand 90% des médias privés en France sont détenus par 9 milliardaires ? C'est la question que se pose le Sénat dans une commission d'enquête qui est censée faire la lumière sur la concentration des médias et qui rendra ses conclusions fin mars. Mais le film Media Crash, qui sort actuellement au cinéma, tente également d'apporter une réponse en enquêtant sur les coulisses des grands médias et révèle un système qui est fait de pression et de censure. Alors, ce film est coproduit avec Mediapart et cela peut étonner. Vous êtes plus habitué à publier les enquêtes. Pourquoi avoir choisi le cinéma documentaire pour alerter sur les entraves à la liberté d'information ?
L'idée, effectivement, qui a présidé au choix d'aller vers une production cinématographique, c'était de marquer en fait la gravité de l'instant et de se dire, nous on vit dans un écosystème, on a des capacités d'analyser ce qui est en train de se jouer, mais il est primordial d'alerter et de le faire au-delà de notre production journalistique dans les colonnes de Mediapart, et vraiment l'idée de marquer le moment en fait, avec une campagne présidentielle qui est très particulière, un candidat qui est Éric Zemmour, qui a été propulsé qui est un produit du système médiatique et qui est propulsé notamment par Éric Zemmour, qui est un candidat xénophobe, antisémite, sexiste, misogyne, et donc on voulait absolument ne pas laisser passer cette occasion, et donc c'est pour ça qu'on a décidé sur le tard, hein, la décision a été prise l'été dernier, donc ça a été un vrai marathon en fait, en quelques mois pour monter un film et pour se dire le cinéma peut nous permettre à la fois de toucher un autre public mais aussi de créer un électrochoc et de la discussion comme on le voit dans les salles qui se remplissent en fait depuis quelques semaines autour de débats et de faire prendre conscience que c'est un débat qui ne doit pas concerner les journalistes mais bien au-delà.
Alors tu dis que la décision de tourner ce film a été prise cet été et ce film a été réalisé en 4 mois. C'est un temps relativement court, mais cela permet au film de sortir avant les élections présidentielles. Et dans ce contexte préélectoral, ce film nous interroge aussi sur l'impact que peut avoir la concentration des médias sur la démocratie. Tu viens de parler du produit Zemmour qui a été propulsé par CNews. Et alors, qu'est-ce que ce film peut apporter au débat dans cette période cruciale ?
Donc il y a deux niveaux en fait, ce qu'on raconte. Et d'ailleurs, le synopsis du film est assez ainsi ensuite qu'il est produit et construit. C'est qu'il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a la manière dont est fabriquée l'information, dont s'imposent des thématiques au détriment d'autres thématiques. Et donc c'est aussi ce jeu-là qui est important pour comprendre comment s'organise aujourd'hui le débat public, pourquoi on parle régulièrement de thématiques par exemple liées à l'immigration, à la sécurité, dans les médias du groupe Bolloré, mais aussi dans le service public, au détriment de par exemple le dernier rapport du GIEC, les alertes sur la catastrophe climatique, ou même la question du droit au logement qui est absolument centrale aujourd'hui. On voit les difficultés rencontrées rencontre de large partie de la population pour se loger. Et ces thématiques-là n'apparaissent pas, y compris dans un moment de débat lié à l'élection présidentielle. Donc il y a toute une dimension liée à la fabrique de l'information, comment on impose des sujets au détriment d'autres qui nous paraissaient fondamentales de décrypter à travers des cas, encore une fois, très concrets. C'est-à-dire qu'on a fait un film documentaire à la Mediapart, c'est-à-dire qu'on n'est pas parti sur des envolées lyriques et des grandes thématiques, mais vraiment sur des cas très précis, documentés de A à Z, permettant de bien situer les points importants de compréhension du débat. Et l'autre partie, c'est la censure. Et là aussi, c'est la compréhension d'au-delà des dimensions idéologiques qui peuvent porter les actionnaires de certains grands groupes privés médiatiques, c'est comment aussi ils utilisent ces médias pour taire des informations, notamment qui peuvent être gênantes pour leur business.
Et donc là, on parle bien de la concentration des médias. C'est un phénomène inquiétant, mais c'est ancien en France. Ça existe depuis très longtemps. Et en 1986, d'ailleurs, il y a une loi qui vise à réguler la concentration des médias. Alors comment cette date a-t-elle été un tournant et que s'est-il passé depuis ?
Bah, il ne s'est rien passé depuis, et c'est ça qui est inquiétant. En fait, il ne s'est rien passé du point de vue du législateur,
oui,
et du politique.
J'entends. En revanche... Mais c'est pour qu'on comprenne bien aussi le contexte. On parle de la concentration des médias, mais cela ne date pas de Bolloré. Ça existait bien avant. Alors comment ce système s'est-il mis en place, tout simplement ?
Bah, il s'est mis en place justement sur les carences et sur le manque de préoccupation de ces thématiques-là du monde politique, en fait, qui aurait pu intervenir, réguler. Encore une fois, il y a des propositions aussi qui sont sur la table depuis des années, voire des décennies. Par exemple, le fait que des grands propriétaires de médias ne puissent pas en détenir plusieurs, par exemple, ce qui paraîtrait sain dans une démocratie. Le fait aussi que des groupes industriels qui bénéficient de la commande publique, on peut penser à Bouygues, par exemple, sur le BTP, ou à Dassault, sur les ventes d'avions. Donc Bouygues est propriétaire de TF1, Dassault est propriétaire du Figaro. Bah, on pourrait imaginer que le législateur pourrait interdire le fait de dépendre de la commande publique et de posséder des médias, parce qu'on voit très bien le conflit d'intérêts qui peut naître de ces situations-là. Et c'est ce qui est intéressant à regarder, c'est que ces propositions, si on les regarde froidement, elles ne sont pas révolutionnaires. Elles n'impliquent pas un changement de modèle de société, etc. Mais le politique, c'est progressivement, en fait, affaissé face aux industriels et aux milliardaires qui détiennent ces médias, parce qu'on imagine bien que porter aujourd'hui des propositions contre la concentration des médias, c'est aussi, notamment dans un moment de campagne présidentielle, prendre le risque d'être clairement affronté sur le terrain de l'information par des propriétaires qui ont énormément d'influence sur le débat public. Donc on a constaté qu'au fur et à mesure où les oligopoles se constituaient et se renforçaient, eh bien le pouvoir politique s'affaissait face à cela, et il n'y a plus aujourd'hui aucune régulation quasiment en la matière.
Et aujourd'hui aussi, la concentration des médias est incarnée par Vincent Bolloré. Il possède un empire médiatique tentaculaire sans précédent en France, un empire si puissant que David Assouline a pris plus de 5 minutes pour citer l'ensemble de ses activités pendant la commission sénatoriale. Média Crash consacre d'ailleurs une grande partie de son documentaire à Vincent Bolloré. Comment décrirais-tu l'empire de Bolloré et qu'est-ce qui fait de lui le symbole de la concentration des médias ?
La première définition, c'est que c'est un très grand danger, ce qu'est en train de faire Vincent Bolloré. C'est dangereux pour l'information, mais même bien au-delà. CNews, les ravages que sont en train de causer les émissions de CNews dans la société, ça dépasse l'audimat de CNews. Et là, j'ai un point de vue divergent avec pas mal de journalistes qui considèrent que ça reste un média de niche, etc. La manière dont, par exemple, CNews a imposé les discussions autour d'un terme criminel qui est le grand remplacement, qui devrait rester dans les poubelles de l'histoire comme étant lié notamment à l'attentat de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Et la manière dont CNews a réimposé finalement des discussions autour d'un terme qui était une idéologie totalement évacué du débat public, jusqu'à avoir ensuite des questionnements. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que ça vient ensuite par capillarité nuire aussi à toutes les émissions, y compris sur le service public. On en vient interroger Valérie Pécresse sur France 2 en disant « Mais qu'est-ce que vous pensez du grand remplacement ?» Donc on voit bien qu'il y a une contamination par porosité finalement entre les autres émissions. Donc, Vincent Bolloré est un énorme danger. En tout cas, nous, on le traite comme tel. C'est quelqu'un qui porte un vrai projet idéologique, qui avait demandé à Éric Zemmour d'avoir son émission quotidienne. Puis ensuite, Éric Zemmour lui a demandé s'il devait concourir à l'élection présidentielle. Donc on voit bien quand même le lien assez évident. Mais en second rideau, moi, je pense aussi que Vincent Bolloré est finalement aussi une opportunité pour nous de décrire ce qui est en train de se passer. Et y compris pour au-delà du cercle des journalistiques et des professionnels de l'information, pour alerter le citoyen sur les dangers de la concentration des médias et de la perversité du système médiatique actuel.
Et on parle donc de Vincent Bolloré. Lui assure que son intérêt est purement économique et nie faire de la politique. Mais bien sûr, comme tu l'as dit avec CNews, qu'il a propulsé sur le devant de la scène médiatique et aussi fait exploser sans doute dans les sondages, il sert les intérêts d'une idéologie politique. Et à son sujet, d'ailleurs, Bolloré a dit « Personne ne pensait, personne ne savait qu'il allait être président de la République ». Donc c'est un lapsus assez révélateur. Et ce qui nous montre aussi que finalement, médias et politiques sont forcément liés. Alors, que peut-on dire sur le lien entre les médias et la politique ? Est-ce que la politique guide forcément l'information et la manipule ?
Vincent Bolloré est un peu un cas particulier en la matière, c'est-à-dire que les grands propriétaires de médias ont justement toujours essayé, en tout cas en apparence, de faire croire qu'ils investissaient dans la presse, soit parce qu'ils aimaient ça, soit parce qu'ils pouvaient avoir des liens ou des intérêts personnels, mais pas du tout de projet politique. Il suffit de rappeler quand même que Serge Dassault, le propriétaire du Figaro, était lui-même sénateur de droite. Donc ces liens-là, en même temps, ils existaient. Mais par contre, la rupture avec Vincent Bolloré, c'est y compris dans la brutalité de l'imposition d'une ligne éditoriale. Il suffit de voir ce qu'il avait fait d'ITélé à CNews, c'était la première alerte. C'est-à-dire que toutes les personnes qui étaient en désaccord avec sa ligne, il les a vidées. Il a mis à la tête de CNews des personnes qui étaient affichées très clairement réactionnaires et qui allaient dans son sens. Et il a fait la même chose d'Europe 1 en nommant par exemple à la tête du service politique d'Europe 1 un journaliste de Valeurs Actuelles. Donc clairement, le Bolloré, il crante, il va un peu plus loin que ce qu'on avait vu les années précédentes, qui était toujours un peu feutré. En fait, il y avait un univers quand même assez feutré, on ménageait les rédactions quand même, il y avait des pôles de résistance qui pouvaient s'organiser, et Bolloré applique à la presse, qu'il a appliqué par ailleurs dans d'autres projets industriels, et qui est d'une violence, là pour le coup, jamais vue, et qui est totalement imbriqué avec son projet politique, en sachant que lui, il est plutôt en fin de carrière, donc on peut aussi imaginer qu'il a envie maintenant d'accélérer et d'imposer les choses avant de laisser le groupe au reste de sa famille.
Et ce documentaire, donc, qui dénonce et alerte sur la façon dont les puissants se servent des médias pour défendre leurs intérêts privés, sort dans un contexte grandissant de défiance envers les médias. Et je me demandais, on a des médias qui défendent leurs intérêts privés, et puis on a aussi Mediapart à côté qui s'appuie sur des faits pour dénoncer, pour démontrer, mais qui a un parti pris. Alors, est-ce qu'on peut délivrer une information libre et neutre sans se laisser guider par des convictions ou par des intérêts où forcément l'information prend parti?
Les partis pris de Mediapart, ils sont connus. Il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. C'est-à-dire qu'on affiche très clairement ce qu'on est, quels sont
est-ce
nos
que
combats, quelles sont nos valeurs.
Est-ce que ça peut aller chercher des informations pour servir aussi son... pour faire l'idée? Parce que quand on fait un documentaire, on part avec une idée précise dès le départ. Est-ce qu'on ne va pas chercher les informations dans ce sens-là plutôt que d'enquêter librement, sans a priori?
Au niveau du pôle enquête, par exemple, nous, on, par exemple, actuellement, sur la campagne présidentielle, on enquête sur absolument toutes les candidatures. candidature de droite comme de gauche. Et d'ailleurs, ça bouscule, y compris notre électorat. Et moi, je suis bien placé pour voir que quand j'enquête sur Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron, j'ai beaucoup moins d'adversité et de ressentiment, y compris dans l'électorat, que quand je sors des enquêtes qui concernent Fabien Roussel ou Jean-Luc Mélenchon. Donc voilà, mais nous, notre liberté, elle est justement liée à ça, c'est-à-dire de défendre, et y compris par notre modèle économique, qui fait qu'on est soutenu par beaucoup de d'abonnés. Donc on n'est pas assujetti finalement à des mouvements d'opinion de notre électorat qui dirait on vous interdit on se désabonne tous si vous enquêtez sur telle ou telle personnalité politique ou tel camp politique. Donc je pense qu'on a fait la démonstration depuis des années qu'on était totalement libre. Et ce qui nous distingue des convictions qu'on peut avoir, etc., c'est notre savoir-faire, en fait. Simplement de s'interdire aucun sujet d'enquête et d'appliquer à chaque fois les mêmes méthodes d'enquête qui sont, bon, aujourd'hui quand même assez reconnues dans la profession, avec rigueur, indépendance, et à chaque élection on montre qu'on est en capacité finalement d'enquêter absolument sur tous les camps politiques et qu'il n'y a aucun tabou en termes d'enjeux d'enquête, mais ce qui n'enlève rien avec les engagements forts que peut porter Mediapart sur des questions de société qui nous semblent essentielles de défendre. Et je reviendrai juste sur aussi le tableau qu'on dresse dans l'ensemble des médias. Il faut aussi rappeler que dans les médias, y compris qu'on met en cause dans notre documentaire, il y a des journalistes à l'intérieur qui se battent. C'est-à-dire que ce n'est pas des blocs homogènes. Et c'est d'ailleurs parce qu'il y a des journalistes qui se battent qu'on a eu accès à des informations, que des gens font sortir. Voilà, dans le groupe Canal, par exemple, il y a beaucoup d'informations qui sortent parce qu'il y a des journalistes qui sont aux premières loges de l'offensive Bolloré et qui ne veulent pas se laisser faire. Et donc, voilà, c'est important aussi de dire qu'on ne considère pas qu'il y a les gentils Mediapart et les méchants de tous les autres médias. Au contraire, la profession, elle est multiple. Les groupes médiatiques, ce ne sont pas des ensembles homogènes. Et il y a des intérêts d'actionnaires, mais qui peuvent être des fois contraires à ceux portés par une partie de la rédaction.
Et c'est intéressant ce que tu as dit quand tu parles, on enquête sur tous les candidats. Et justement, comment vous enquêtez sur les candidats? Par exemple, si on revient sur l'affaire Fabien Roussel, vous allez chercher les informations ou vous partez d'éléments qui sont remontés à vous? Comment ça se passe une enquête concrètement?
Il y a différentes sources d'informations. Ça peut être multiple. Ça peut être nous qui allons chercher, ou des fois des alertes, ou même ce qu'on peut lire dans la presse. En l'occurrence, sur Fabien Roussel, c'était une personnalité politique sur laquelle on n'avait jamais enquêté. Parce que c'est un responsable politique national depuis 2017 seulement, c'est-à-dire que, et même 2018 quand il a pris en réalité la tête du Parti communiste français, nous on le suivait pas depuis des années. Il était avant à la Fédération PCF du Nord, et donc dès lors que le PCF a annoncé a confirmé que Fabien Roussel allait concourir à l'élection présidentielle, il a été évidemment hyper important pour nous de commencer à regarder son parcours, de s'interroger à la fois sur son programme, ce qu'on fait, on décrypte le programme, sur le tournant de la campagne du PCF, notamment les prises de distance sur un certain nombre de thématiques avec la France insoumise. Donc on a fait tout ce travail-là. Et en parallèle, avec une collègue, Pascal Pascarello, on a décidé d'enquêter véritablement sur son parcours à lui, notamment lié au fait qu'il a une carrière qui est très collée au Parti communiste, mais qu'il a eu beaucoup de contrats d'assistant parlementaire. Et donc on s'est interrogé sur les interférences qu'il pouvait y avoir ou la manière dont il combinait avec les deux. Et c'est là où on est arrivé sur le résultat de notre enquête, qui est de 2009 à 2014. Il était salarié par contrat d'assistant parlementaire de l'Assemblée nationale, mais visiblement il s'occupait un peu plus de son parti que d'accompagner son député dans son travail législatif.
Et pour finir, on va revenir sur le documentaire Média Crash, qui dénonce la concentration des médias, mais finalement, à la fin, on peut se dire « oui, mais qu'est-ce qu'on fait face à ça ? Est-ce qu'il pourrait exister des solutions pour remédier à cela ?» Et je me demandais si dans un monde idéal, on pourrait imaginer s'affranchir de la mainmise des puissances sur les médias.
La mainmise des puissances sur les médias, je pense que c'est la mainmise des puissances sur l'économie. Hein. On voit bien le contrôle de l'information. À quel point, et c'est aussi une partie du documentaire, à quel point c'est important. Hein. Pourquoi c'est important pour certains propriétaires de médias de parler énormément de sécurité, de délinquance, mais pas de délinquance en col blanc, pas de fraude fiscale, pas de droit à l'accès au logement. pas de dérèglement climatique. Enfin, voilà, il y a vraiment des intérêts et des enjeux idéologiques derrière ça, très forts. Donc la mainmise, est-ce qu'on peut l'empêcher? Je ne sais pas. En tout cas, il y a des solutions vraiment très concrètes. Encore une fois, le simple fait, là, la loi pourrait le permettre, d'interdire de détenir plusieurs médias. Ça paraît des choses qui sont a priori de bon sens, que le grand public pourrait tout à fait, la population pourrait tout à fait comprendre, qui sont légitimes et qui sont des mesures qu'il faut prendre tôt, parce que tu en parlais tout à l'heure, il y a une défiance accrue. Et qui se renforce d'enquête d'opinion en enquête d'opinion à l'égard des médias, à l'égard des journalistes, beaucoup d'incompréhension sur la manière dont les sujets sont portés, la déconnexion entre le travail des rédactions et ce que ressent une grande partie de la population. Et donc si le pouvoir politique ne décide pas de s'emparer très clairement de ces questions, on va au-devant de grandes catastrophes à mon avis.
Donc c'est ça finalement le message, le moment est crucial, il est temps d'agir maintenant car après ce sera trop tard.
Ouais, il y a un effet, on le voit avec la candidature d'Éric Zemmour et la manière dont c'est en train de polariser le débat public en France. C'est un candidat qui a quand même devant des syndicats de policiers appelé à la guerre civile. Donc nous on a un devoir d'alerte par rapport à ça et on ne veut pas se dérober par rapport au moment historique qu'on est en train de vivre.
Et justement, le film Media Crash dénonce tout cela et documente aussi la mainmise donc, de ces puissances sur les médias. C'est à découvrir ce soir au ciné TNB à Rennes à 20h. Et toi, Antoine, tu seras là pour animer un débat juste après la séance. Merci à toi d'être venu à SILAB.
Merci à vous.
Merci Antoine Rouget d'être venu dans les studios de SILAB.